France Inter. Le 18-20, Alexandra Bensaï.
C'est entendu, pour l'heure, les bonnes nouvelles, elles arrivent lentement et donc pandémie et confinement, la phase 1 continue, il le faut. Mais on peut quand même se projeter et questionner, voire on doit. Vous voulez savoir s'il est déjà arrivé que l'économie s'arrête à peu près pour tout le monde et à peu près en même temps? Et vous aimeriez sans doute surtout apprendre comment on l'a fait redémarrer. Et puis les corps entravés mais l'esprit libre, on peut aussi observer la planète entière, la Chine, les États-Unis, l'Europe. Oui, les rapports de force se sont transformés eux aussi. Peut-on déjà imaginer des gagnants et des perdants? Peut-on envisager que cette nouvelle crise nous pousse à faire d'autres choix? Laisse son empreinte dans la société? Oui, ça c'est déjà vu. Alors ce soir, nous faisons la photo de ce que nous subissons pour faire une esquisse du monde d'après, celui que peut-être nous choisirons. Économie, ordre mondial, quelle nouvelle donne? C'est le téléphone sonne ce soir et la parole est à vous.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et je salue nos invités, ils sont trois, je les remercie infiniment d'être avec nous ce soir par la magie de la technologie du 21e siècle. Mathilde Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, vous êtes chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. Thomas Gomard, bonsoir à vous.
Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur, je vous entends bien, haut et fort. Vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et bonsoir à vous Pierre-Cyril Auqueur.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes directeur d'études à l'EHESS et vous enseignez l'histoire économique. On va démarrer avec cette profondeur-là, si vous voulez bien, Pierre-Cyril Auqueur. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est l'économie que l'on décide de bloquer pour sauver des vies. J'aimerais savoir si c'est la première fois qu'une telle décision est prise, finalement. Arrêter l'économie pour sauver des vies.
À cette échelle, sans aucun doute, c'est la première fois. Autrefois, on n'avait pas la capacité à le faire. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens, mais on pouvait bloquer une ville, on pouvait bloquer une petite région à la rigueur. On bloquait initialement un bateau en quarantaine, mais bloquer une économie entière, ça ne s'est jamais vu. Ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup moins de morts que ce qu'on a connu dans des épidémies comparables autrefois. Mais évidemment, ça a un coût économique extrêmement élevé.
Et donc, pendant la grippe espagnole de 1918, il ne s'est rien passé de tel. Pierre-Cyril Auqueur.
On a pris des petites mesures de distanciation sociale, on a essayé, mais on n'avait pas la capacité à les faire appliquer. On était en situation de guerre, donc en fait l'information était extrêmement difficile à construire. Il fallait éviter de fragiliser la défense nationale face aux ennemis, quel que soit le pays dans lequel on se situait. Donc finalement, les pays qui ont le mieux mené ce genre de politique à l'époque, c'est ceux qui étaient en paix, les États-Unis, la Suède qui était neutre. Enfin, les États-Unis étaient en guerre, mais ils étaient très marginalement en guerre. Dans ces pays-là, il y a eu un petit peu moins de morts, mais dans l'ensemble, on n'était pas en mesure réellement, même quand on réussissait à mettre un petit peu de distanciation sociale, de freiner véritablement cette maladie. On n'avait pas les capacités médicales non plus de traiter les malades.
Mathilde Lemoine, vous qui êtes également économiste, j'aimerais avoir votre regard sur cette crise économique qui est le prolongement de la crise sanitaire, de l'urgence sanitaire. Dans quelle mesure, pour vous, c'est complètement inédit? Même les chiffres sont inédits.
C'est l'arrêt total de secteurs entiers de l'économie dans le monde qui est évidemment totalement inédit. C'est un choc donc d'offres, c'est-à-dire qu'il y a des lignes de production ou des services entiers qui sont arrêtés. C'est un choc de demande puisque les gens sont confinés chez eux. On a un peu de recul puisqu'il y a eu des études académiques qui montrent que les coûts de confinement représentent à peu près 60% des coûts totaux des épidémies. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait inédit. L'autre élément important à avoir en tête, c'est aussi le fait que les services ont chuté, tant du point de vue de l'offre, puisqu'on voit que les restaurants sont fermés, pour prendre cet exemple le plus simple, mais du point de vue aussi de la consommation. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau, puisque normalement, les services dans les crises sont relativement résilients. Et on va voir que c'est très important à prendre en compte, parce que d'abord, on n'a pas de recul sur est-ce que justement on peut anticiper un rebond de ce genre de façon de servir la population. Et deuxièmement, Les pays émergents ont une part d'emploi peu qualifié dans les services très importants, et il se peut que l'arrêt de l'économie pénalise particulièrement les plus pauvres des pays émergents, ce qui fait que l'impact de cette crise pourrait être beaucoup plus profond et beaucoup plus long que ce qu'on anticipe aujourd'hui, justement à cause de l'importance que cette crise a sur les services. Donc, pour être rapide, ce sont des éléments vraiment totalement inédits, sans parler évidemment de l'ampleur. On parle peu de la construction. Dans la plupart des pays du monde, le niveau d'activité dans le secteur de la construction est à 10% seulement de son niveau d'activité normal. Et là aussi, on a du mal à appréhender les conséquences de cet arrêt quasi total de l'activité dans un secteur très important dans les pays émergents, mais aussi dans les pays développés.
Eh bien, je vais vous poser la même question, Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI. Vous, avec vos lunettes de directeur de l'Institut des Relations Internationales, en quoi la crise est inédite pour vous ?
Elle est inédite en raison du nombre de personnes confinées simultanément et de la rapidité avec laquelle ces personnes se sont retrouvées confinées. Le 31 décembre, le bureau de l'OMS à Pékin était avisé par les autorités chinoises d'un problème en cours. Trois mois plus tard, vous aviez 3 milliards de personnes confinées. Donc cette rapidité dans la mise en œuvre est tout à fait exceptionnelle à l'échelle globale. Ce qui est également exceptionnel, c'est l'ampleur des mesures prises par rapport au nombre de morts. Je m'explique. Pour un pays comme la France, dans une période de vraie guerre, la Première Guerre mondiale, c'est 1000 morts par jour. Un pays comme la France, en temps normal, aujourd'hui, c'est 11 500 morts par semaine. Donc on a un décalage extrêmement fort entre l'ampleur, encore une fois, des mesures prises et le nombre de victimes, même si, évidemment, il faut être très 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 soucieux, très attentif à elle. Mais ce rappel, à mon avis, permet de souligner le contraste. Et puis, dernier élément, évidemment, tous les pays ne peuvent pas répondre à la crise de la même manière. Tous les pays n'ont pas un État-providence. Et que le fait, par exemple, que l'Inde, un peu plus d'un milliard trois cent millions d'habitants, soit complètement confinée, va avoir des conséquences sociales et probablement un nombre de morts beaucoup plus important par les mesures de confinement prises que par le traitement de la crise à proprement parler.
On va au standard où François voudrait vous poser une question. Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez d'Aquitaine.
C'est ça, de Nouvelle-Aquitaine.
De Nouvelle-Aquitaine, soyons précis. Ah. Et là, on parlait de l'Inde, mais c'est sur l'Europe que vous avez une question, n'est-ce pas ?
Alors, historiquement, moi j'ai été le président fondateur du mouvement européen en Gironde il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai pas mal travaillé la question d'appropriation de la citoyenneté européenne et j'en suis arrivé à la conclusion que dans l'Union européenne, la plupart des gens ignorent qu'ils ont cette citoyenneté et ils ignorent de quelle façon fonctionnent les institutions. Or, si, comme le disait M. Gomard, je suis parfaitement d'accord, on a besoin d'un État-providence à l'échelle européenne, alors dans ce cas-là, il faut régler le problème d'avoir, comme en 2007 ou 2008, une banque centrale européenne qu'on utilise horriblement mal, pays par pays, entre nous, au lieu de s'en servir comme une ressource commune. En l'occurrence, en 2007-2008, on aurait pu fabriquer un grand service de santé publique européen. Et il existe des associations comme European Public Health Association qui demande ça depuis des années. Mais nos chefs de gouvernement n'ont pas voulu l'entendre. Ensuite, je voudrais simplement lui demander ce qu'il pense de la chose suivante. C'est-à-dire, si on arrive à mettre un Sénat des régions à la place des organes intergouvernementaux, on est en fait dans une situation dans laquelle on peut se débarrasser, on peut avoir quelque chose, un État fédéral qui ne fasse pas peur aux citoyens européens. Parce qu'ils ont peur qu'on en fabrique un qui soit vraiment un copier-coller des USA, et ça ils n'en veulent pas. Alors simplement pour terminer, dès qu'on crée un État fédéral, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ONU qui ne fonctionne pas, comme le disent les chercheurs du GIEC ou Greta Thunberg ou 156 Jeunesse du Monde? Eh bien, on tombe dans l'obligation de modifier les statuts de l'ONU, tout simplement parce qu'on aura supprimé 27 des membres importants et remplacés par les États-Unis d'Europe.
Donc François,
quelque part, nous, notre citoyenneté européenne, c'est à la fois quelque chose qui doit nous servir à beaucoup mieux utiliser notre Banque Centrale Européenne, et également qui nous permet à plus long terme de nous dire oui, la réforme de l'ONU bloquée par les USA qui ont la minorité de blocage à 17,5%, eh ben, si on supprime 27 des pays les plus importants de l'ONU en proposant de les remplacer par les USA, qu'est-ce qui se passe pour la Chine, pour l'Inde, pour Monsieur Gomard?
On va pas, alors, en effet, des questions qui s'adressent d'abord à Thomas Gomard, mais on pourrait aussi solliciter Mathilde Lemoine pour son regard sur la façon dont l'Europe répond à cette crise. Thomas Gomard, François, c'est vous qui l'interpelle sur l'Europe et sa capacité à répondre. Pas assez fédéral.
Merci à François pour sa question. Je laisserai peut-être Mathilde Lemoine répondre sur l'aspect BCE à proprement parler. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est la difficulté de solidarité que les Européens ont rencontrée en début de crise. Et vous avez, de ce point de vue-là, un niveau aujourd'hui, j'allais presque utiliser le terme rancœur, il est peut-être un peu fort, mais il apparaît dans les enquêtes d'opinion très fort en Italie. L'impression que le pays a été laissé seul face à cette épidémie après avoir été laissé seul lors de la crise des dettes souveraines et lors de la crise migratoire. Et donc, moi, ce qui me frappe en premier lieu dans les commencements de la crise, c'est le manque de solidarité européenne. En deuxième lieu, c'est la difficulté à s'entendre, on l'a vu cette semaine, précisément pour trouver les voies et moyens d'une coordination économique. Alors, il y a à la fois des éléments positifs parce qu'un plan a été annoncé, mais je pense qu'en même temps, les marchés voient très bien le clivage qui est en train de réapparaître, pour faire simple, entre pays du Nord et pays du Sud de l'Europe, la France étant désormais tout à fait considérée comme un pays du Sud de l'Europe. Et dernier élément, l'efficacité plus grande du système onusien, je pense qu'elle est aussi questionnée, c'est que tous les systèmes aujourd'hui multilatéraux sont grippés, en particulier en raison, pour des raisons différentes, mais en raison de l'attitude de la Chine et des États-Unis, que ce soit le système onusien, l'OMS par exemple, est critiqué sur un certain nombre d'aspects. Le G7 sous présidence américaine ne sert à rien actuellement dans cette gestion de crise à proprement parler, et les perspectives de voir le G20 s'en saisir apparaissent également limitées. Donc je pense que ce qui me frappe plutôt que l'aspect fédéralisme européen, c'est davantage le fait que les réponses qui ont été formulées jusqu'à présent l'ont été davantage au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne dans sa totalité.
On va voir si Mathilde Lemoine partage ce sentiment que pour l'instant on a vu une Europe qui n'est pas assez solidaire. Et j'ajouterai Mathilde Lemoine, chef économiste du groupe Edmond Rothschild. Comment jugez-vous, comment évaluez-vous la réponse à la fois de l'Europe, de Bruxelles et puis de la Banque centrale?
Alors, contrairement à la précédente crise, on n'a pas vu la Commission européenne souhaiter annoncer une coordination des plans de soutien des différents États. Donc il y a un recul par rapport à ce qui avait été fait déjà en 2009. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que effectivement, comme la santé est de compétence nationale, l'Union européenne a été relativement absente et Monsieur Gomard l'a largement souligné, il y a eu une espèce de compétition entre les États membres. Et ça participe aussi de l'affaiblissement de l'Union européenne vis-à-vis des grands partenaires que sont la Chine et les États-Unis, et on le verra que ça a un impact probablement dans la perception du monde d'après. Mais j'irai encore plus loin que ce qu'a apporté comme analyse notre auditeur, c'est que on a l'impression qu'il y a un détricotage des rares politiques communautaires qui fonctionnaient. Et ce qui a fait aussi que l'Europe a pu avoir un poids dans la construction de l'ordre mondial du XXe siècle, c'est parce qu'il y a eu l'établissement de politiques communautaires, je pense en particulier au commerce, alors ça peut être décrié, mais vous l'avez cité aussi, à la Banque Centrale Européenne. C'est quand même la plus symbolique des politiques communautaires qu'est l'euro. Et on voit qu'après le choc de la crise souveraine, qui a forcé les chefs d'État et de gouvernement,
la crise des dettes,
voilà, exactement, qui a forcé les chefs d'État et de gouvernement à mettre en place des mécanismes de solidarité. Il y a eu sans cesse des coups de boutoir dans cette solidarité européenne et on a vu que cette crise sanitaire, alors je vais peut-être un tout petit peu loin, mais a accéléré cette espèce de repli national sur des politiques domestiques. Et on l'a vu en matière de santé, quand il y a une compétition pour obtenir des masques, on l'a vu en termes aussi de plans de soutien, puisque chacun fait son plan de soutien dans, dans son coin. Et encore une fois, je trouve que c'est un recul par rapport à 2009, où il y avait eu cette conscience que sans se coordonner pour mettre en place des plans de soutien ou des plans de relance, il pouvait y avoir des effets négatifs. C'est-à-dire ce qui était très positif pour un pays avait des conséquences négatives pour un autre. Donc effectivement, c'est inquiétant de ce point de vue-là, parce que ça veut aussi dire que les États-Unis, qui n'ont de cesse de monter les pays les uns contre les autres, et les Chinois font de même, ont un terreau favorable. Et c'est une des inquiétudes, en tout cas, qu'il faut avoir en tête, c'est que cette crise sanitaire pourrait justement avoir accentué cette fragilité actuelle de l'Union européenne, me semble-t-il.
Nous allons au standard où Catherine nous appelle de Gironde. Bonsoir Catherine,
oui.
Bienvenue au
oui.
téléphone sonne.
Bonsoir et merci beaucoup pour vos émissions. Oui, j'ai une question, vous allez dire peut-être c'est simpliste et vous avez beaucoup de grands économistes autour de vous. Voilà.
J'espère qu'ils vont pas dire ça, j'espère qu'ils vont vous écouter, j'en suis sûre, ils vont vous répondre, allez-y, je vous en prie.
Voilà. Donc le virus arrive de Chine et d'une certaine façon, sans vouloir être trop polémique, mais on peut dire quand même que la Chine est à l'origine de ce qui se passe en ce moment. La Chine est en train de nous vendre à prix d'or énormément de matériaux, de matériel que nous ne fabriquons plus dans nos pays, je pense aux masques, etc. Et c'est pas gratuit tout ça. Nous devons emprunter, tous nos pays vont emprunter de façon massive, de façon à pouvoir faire repartir, d'abord soutenir nos populations, puis ensuite faire repartir nos économies. Qui va acheter ces emprunts? Je crains que ce soit la Chine. Et qu'au final, nous nous mettions complètement financièrement, économiquement et politiquement, par conséquence, dans les mains de la Chine.
Donc c'est votre question sur le rapport de force. Est-ce que la Chine, finalement, à la fin, ne sera pas, si on peut le formuler comme ça, gagnante? C'est ça, Catherine?
Absolument.
Hein,
le gros bénéficiaire.
On va poser la question.
Un peu plus de notre indépendance économique encore.
On va poser la question à Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI.
Alors, ce qui est certain, c'est que cette crise révèle à quel point la Chine a retrouvé sa centralité historique. Quand on regarde dans la très longue durée, l'économie chinoise, à l'échelle de l'économie monde, a toujours représenté à peu près entre 25 et 30% de l'économie mondiale, sauf pendant une période de temps assez courte qui correspond grosso modo au 19e siècle et à la première partie du 20e siècle. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire, effectivement, qui est en train de se passer. Et les Européens se rendent compte que les effets de délocalisation, notamment, que l'organisation de leur chaîne de valeur, se sont traduits par une très grande dépendance dans un certain nombre de secteurs, et en particulier dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, 80% des médicaments génériques sont produits en Chine et en Inde. Je souligne également l'importance de l'Inde de ce point de vue. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, là où la question de Catherine est très pertinente, c'est que les Européens risquent de sortir de cette crise appauvrie, désunie et presque, je dirais, hébétée s'ils ne se ressaisissent pas. Et auront beaucoup de mal, effectivement, à refuser des offres technologiques venant de Chine. Et ce à quoi, à mon avis, il faut se préparer, c'est à envisager le fait que l'Europe devienne une sorte de théâtre d'un affrontement à distance en matière géoéconomique entre les États-Unis et la Chine, à la fois dans des secteurs comme celui de la santé, mais plus directement et de manière plus préoccupante dans le secteur, je dirais, technologique, et en particulier pour ce qui a trait à toutes les données. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une évolution tout à fait fondamentale dans les politiques de données et le fait que l'économie de demain reposera en très grande partie dans la capacité à générer, à stocker et à traiter des données. Et à ce jeu-là, les États-Unis et la Chine sont très nettement en avance par rapport aux Européens.
Pierre-Cyril Auqueur, je voudrais vous interpeller, puisque ce dont on est en train de parler, finalement, là, c'est de la mondialisation. Est-ce que dans l'histoire, on a l'exemple d'une épidémie qui stoppe ou qui fasse évoluer différemment la mondialisation ? Pierre-Cyril Auqueur.
Où une épidémie produise cet effet. Les épidémies ont eu cet effet indirectement quand elles avaient des effets majeurs sur la population et sur l'économie dans leur ensemble. En revanche, il y a des crises économiques qui ont produit des reculs de la mondialisation parce que des pays se sont sentis vulnérables dans l'interdépendance. La question que posait madame était est pertinente. Si on se sent trop dépendant vis-à-vis de la Chine et qu'on n'a pas des garanties sur le fait que la relation sera suffisamment bienveillante, eh bien on va chercher à réduire cette dépendance et donc on va défaire une partie des éléments de la mondialisation qu'on a construite précédemment. Et ça c'est...
On a visiblement un souci de liaison avec Pierre-Cyril Auqueur, qui ne nous entend plus. Mathilde Lemoine, je me tourne donc vers vous. Est-ce que vous qui regardez les chiffres, qui regardez cette économie chinoise qui est en train de redémarrer, c'est vrai qu'on l'a vu même livrer du matériel de santé à l'Italie. Est-ce que la Chine est en train de sortir plus forte, gagnante, ou elle sort seulement la première à petits pas ? Comment vous regardez la situation ?
Alors, tout d'abord, d'un point de vue politique, la Chine veut profiter de cette crise, et j'emploie le mot profiter à dessein, pour montrer que la gestion autoritaire d'une crise sanitaire est plus efficace qu'une gestion démocratique. Et ça, c'est un vrai danger, hein. Donc, on doit en tenir compte, puisque ça va dans le sens de ce que le président chinois avait exprimé largement lors de sa réélection. Il considérait que l'objectif de la Chine au XXIe siècle était de devenir le leader mondial grâce à l'économie. Donc il faut bien avoir en tête cet objectif affiché du gouvernement et du président chinois dans la gestion de l'après-crise. Et si vous permettez, je voudrais répondre à la question de madame, parce que elle était extrêmement précise et elle parlait de la dette. Et je trouve ça vraiment intéressant comme question, parce que vous savez qu'un des grands sujets des Américains, c'était que la Chine détienne, au-delà de tout le reste, la dette américaine. Et donc, ça signifiait que les États-Unis étaient moins libres de leur politique économique et de leur politique monétaire. Et les États-Unis sont, grâce à leur réserve fédérale, donc à leur banque centrale européenne, en train d'essayer d'y remédier. Et pour une fois, je serais un peu moins pessimiste que tout à l'heure, et je dirais que c'est un des grands atouts de cette banque centrale européenne, qui est que elle achète de la dette publique. Alors ça peut avoir d'autres inconvénients, des effets collatéraux qu'on n'a pas le temps de développer. Mais en tout cas, ça veut dire que à court terme, c'est la Banque Centrale Européenne qui peut aider les gouvernements à soutenir les économies sans pour autant que les Chinois achètent massivement la dette qu'ils émettent, et ça participe de limiter une forme de dépendance. Mais bien évidemment, ça ne sera pas suffisant. Et cette question qui est posée est vraiment extrêmement importante de mon point de vue.
Alors sur la dette, on a justement Eric qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Eric, je voudrais savoir à quelle dette pensez-vous, et écoutez votre question bien sûr.
Je n'ai pas entendu.
Eric, je voudrais savoir, vous voulez poser une question sur la dette.
Oui.
Je voudrais vous entendre sur la dette. Quelle est cette dette dont vous parlez exactement? Alors, comment la comprenez-vous, oui, et quelle est votre question?
Tout à fait. Juste en préambule, j'espère que plus personne, ni aucun journaliste, ni aucun politique ne parlera de charges sociales, mais parlera dorénavant de cotisations sociales, quand on sait que les cotisations sociales, c'est les hôpitaux, c'est la caisse d'allocation familiale, c'est les retraites, si on verrait que le président Macron commence à s'en apercevoir. Donc, de grâce, que plus personne ne parle de charges sociales, mais parle toujours de cotisations sociales.
Alors, c'est très beau système qu'on a. Vous avez raison, Eric, le terme exact, c'est cotisations sociales.
On est d'accord.
Sur la dette.
Pourquoi, même si ça peut paraître simpliste et idéaliste, pourquoi on n'entend pas vraiment un économiste ou un politique dire que peut-être la solution la plus simple pour la dette, ça serait d'annuler purement et simplement la dette de l'année de toutes les dépenses que constitue cette crise, et aussi des dépenses de de redéploiement de l'économie, y compris évidemment d'annuler les intérêts de la dette. Et pourquoi pas ne pas, et pourquoi ne pas rêver finalement à simplement, purement et simplement annuler les dettes mondiales, repartir à zéro, arrêter de payer des intérêts à des marchés financiers et repermettre aux États, quand ils en ont besoin, de réemprunter sur leur propre banque. Pourquoi finalement ce qui peut paraître comme une utopie n'est pas réellement discuté parmi les économistes ou les politiques ?
Eh ben, on va poser le sujet sur la table. Merci Eric pour votre question. On va déjà regarder peut-être du côté de l'histoire. On a retrouvé Pierre-Cyril Auqueur. Vous êtes avec nous, j'espère. Toujours avec un petit décalage.
Merci.
Ah, vous êtes là, mais avec moins de décalage en plus.
Bon.
Pierre-Cyril Auqueur, c'est vrai qu'à chaque fois, les États, enfin à chaque fois, quand il y a une guerre, quand il y a une crise, les États sortent, mettent des plans de soutien et sortent avec une facture terrible. Historiquement, qu'est-ce qui se passe avec ces dettes, puisqu'on emprunte ?
Alors, il y a plusieurs manières de sortir de la dette. Effectivement, après toutes les grandes guerres, on est sorti avec des dettes publiques extrêmement élevées. Donc, pour en sortir, il y a plusieurs solutions. Soit on la rembourse peu à peu en faisant payer énormément d'impôts à la population. Ça, c'est la solution historiquement adoptée par l'Angleterre pendant des siècles. Ce qui a malgré tout pas empêché l'Angleterre de devenir un pays très riche, mais n'a peut-être pas aidé sa croissance non plus à certains moments. Et dans l'entre-deux-guerres, ça a été finalement rejeté parce que la population a considéré que c'était insupportable que toute la population paye pour finalement rembourser les dettes qui étaient dues à une petite minorité. Il y a une autre solution qui a été développée dans l'entre-deux-guerres et à d'autres moments également, après la Deuxième Guerre mondiale également, c'est l'inflation. Alors l'inflation, ça fait ce que monsieur avait l'air de souhaiter, c'est-à-dire supprimer la dette. Et dans le cas de l'Allemagne en 1923, qui est bien connu, ça a supprimé tellement la dette qu'effectivement ensuite on s'est retrouvé avec des millions de personnes qui détenaient cette dette, qui ont été totalement ruinées, qui étaient à la rue, et dont on sait qu'ils ont contribué à l'élection d'Adolf Hitler. Donc c'est une mesure qui est extrêmement violente, extrêmement radicale, et un petit peu dangereuse dans cette radicalité. Il y a d'autres solutions qui ont été employées. Il y a par exemple l'impôt sur le capital, qui est une manière de redistribuer en faisant payer d'une manière qui est raisonnée, qui est choisie démocratiquement en sélectionnant les gens qui vont payer plus, qui vont payer un impôt qui va permettre de rembourser une partie de cette dette. C'est une chose qui est possible aujourd'hui. Il y a toute une série de réponses. Penser que l'annulation de la dette est une solution magique, à mon avis, est une erreur. Et détruirait suffisamment le système financier pour que tout le monde en soit finalement victime. Et c'est beaucoup plus inefficace et beaucoup moins juste socialement que un système d'impôts bien choisi.
Mathilde Lemoine, en effet, Eric, notre auditeur du Gard, il dit mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement annuler la dette ? Moi, j'aimerais déjà savoir, est-ce que vous savez, vous, à cette heure-ci, évaluer la facture, par exemple, pour la France. Combien nous coûtera cette crise ?
Ah non, c'est absolument impossible. On peut faire des scénarios. On peut pas évaluer la facture et parce que vous l'avez bien vu vous-même, le gouvernement français ne cesse de réévaluer à la hausse le coût du soutien de l'économie. Ça dépend de la durée du confinement, ça dépend des conditions de sortie du confinement, ça dépend aussi de l'impact de l'épidémie sur les pays émergents, des effets indirects. Donc ça dépend d'un certain nombre de critères dont nous n'avons aujourd'hui aucune idée. Et donc, nous pouvons faire des hypothèses. C'est vrai que si on fait l'hypothèse que le confinement dure encore un mois et que la sortie du confinement est progressive avec une reprise du tourisme seulement l'année prochaine, vous voyez qu'il y a une hypothèse assez négative, on est sur des augmentations de dettes mondiales qui sont aux alentours de 30 à 50 points de PIB. Donc, c'est absolument considérable. Mais encore une fois, ce sont vraiment sur la base de scénarios. Alors pour répondre à la question, il y a des débats entre les économistes et chacun essaye aussi de regarder les choses de façon sérieuse en prenant en compte l'ensemble des critères. Monsieur Auqueur l'a dit de façon très précise, c'est-à-dire que il y a toujours des contreparties. Ensuite, la question c'est quelle est la moins mauvaise des contreparties à un remboursement décalé ou une annulation des dettes. Les dettes, c'est aussi l'épargne d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de retraités, pas forcément en France, mais aussi. Et puis, il faut pas oublier que les politiques de soutien qui sont mises en œuvre Ce sont des politiques qui visent à acheter du temps. En fait, c'est-à-dire l'arbitrage qu'on fait en termes de recommandations de politique économique, c'est dans quelle mesure on a intérêt à soutenir le court terme pour éviter que le long terme soit trop difficile. C'est-à-dire dans quelle mesure on a intérêt à éviter qu'il y ait trop de chômage et trop de faillites pour faire en sorte que la crise ne soit pas trop longue et profonde. Et c'est cet arbitrage qui fait que la dette augmente plus ou moins. Si on a une lecture optimiste des choses, on peut aussi dire que le fait de limiter la durée et l'ampleur des crises, l'ampleur des faillites, l'ampleur du chômage, grâce à ces plans de soutien, même si ça augmente la dette, ça augmente la probabilité que la croissance redémarre et que on puisse retrouver une activité pas normale bien sûr, mais en tout cas relativement supérieure à celle qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu ces plans de relance. Et donc dans l'idée de la dette, il faut aussi considérer que ça peut avoir un impact positif et qu'on peut en sortir par une croissance relativement dynamique qui fasse que la dette en pourcentage du PIB recule. Alors, sais, c'est un peu utopique, j'en suis
c'est
tout à fait
C'est ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses. On est reparti très très fort et donc la dette a été beaucoup moins douloureuse.
Voilà, donc c'est un schéma qu'on question. Peut aussi intégrer.
On a une question de Marie-Laure qui vient d'arriver là sur l'adresse mail radiofrance.com. Marie-Laure nous dit, on a beaucoup comparé la situation actuelle au lendemain de 1945. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler à nouveau d'un plan Marshall à l'européenne? Je vais poser la question à Thomas Gomard.
C'est la formule du plan Marshall, si vous voulez, réapparaît très régulièrement dès que nous rencontrons des problèmes. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, l'a utilisé très, très récemment. Je pense que la comparaison avec 1945 est trompeuse. On n'est pas, à mon sens, dans une configuration comparable. 1945, c'est la Seconde Guerre mondiale au sens premier du terme, c'est-à-dire un affrontement des volontés, une intentionnalité de tuer à des finalités politiques. C'est pas du tout la même chose. Et donc le système qui a été mis en place après 45 et notamment le système veillant à essayer de construire une sécurité collective reposant sur un équilibre des puissances, le problème se pose extrêmement différemment aujourd'hui parce qu'on est face à un problème non pas de type guerre, mais un problème de type sécurité humaine. Donc je pense qu'il faut faire attention dans les parallèles pour pas partir dans de mauvaises directions. Quant au plan Marshall, bon, c'est encore une fois, c'est les formulations symboliques sont importantes, mais il est déjà là. C'est-à-dire que le plan de sauvegarde qui a été annoncé par les masses mobilisées, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des États-Unis, est extrêmement important dans ses proportions. Donc, à mes yeux, il faut peut-être sortir, je dirais, une sorte de mystique du plan Marshall, y voyant la solution à tous nos problèmes, et essayer plutôt d'adapter les outils à la situation très spécifique que nous avons à traiter.
En tout cas, la différence, quand même, dites-moi si je me trompe, mais on a vraiment le sentiment que là, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis continuent dans le fait de ne pas vouloir le leadership. Et est-ce que c'est pas là quelque chose d'absolument particulier?
Alors ça, c'est très frappant. C'est effectivement la première crise de cette ampleur depuis 1945, dans laquelle les États-Unis ne cherchent, je dirais, à tout prix, à ne pas exercer leur leadership. C'est-à-dire que les États-Unis se recroquevillent, se barricadent, ils sont en période de campagne électorale, ils sont dirigés par Donald Trump qui a fait de la dénonciation du multilatéralisme l'alpha et l'oméga de sa politique. Et en ce sens, il est tout à fait cohérent avec les propositions prises depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Et là, il y a effectivement un changement de configuration du système international. Les États-Unis, depuis 1945, étaient le garant ultime du système onusien. Et depuis, c'est pas tout à fait vrai de dire que c'est Donald Trump qui a enclenché les choses, parce qu'il y avait déjà des éléments sous-jacents sous l'angle Bush. Mais de manière tout à fait explicite, l'administration Trump fait le choix de l'unilatéralisme. Et sa réaction à la crise sanitaire l'illustre avec notamment comme conséquence de casser un peu plus la relation transatlantique.
Pierre-Cyril Auqueur, vous voulez réagir à notre auditrice qui fait la comparaison avec un plan Marshall 1945?
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que le plan Marshall après la guerre a permis de résoudre le problème crucial de l'Europe qui était un problème de balance des paiements. C'est-à-dire ça permettait à l'Europe d'importer les produits américains qui lui manquaient. Et les États-Unis ont eu l'intelligence de prêter à l'Europe ces montants de manière à la fois développer leur propre industrie et permettre à l'Europe de se reconstruire. Dans un contexte où l'Europe était détruite physiquement. Aujourd'hui, on n'a aucun problème de destruction physique. La seule chose qui se passe, c'est que l'économie est bloquée. Mais l'Europe n'a pas besoin de crédits de l'extérieur, ce qui serait l'équivalent d'un plan Marshall, que ce soit de la Chine ou des États-Unis, des crédits de l'extérieur qu'on paye toujours d'un prix non seulement économique, mais qu'on paye aussi d'un prix politique. Et le plan Marshall était fait pour que l'Europe rallie les États-Unis contre l'Union soviétique. Si aujourd'hui on se trouve entre les États-Unis et la Chine, on aurait le risque de se faire mettre dans le camp de l'un ou de l'autre. Alors que l'Europe n'a pas besoin de ça, puisque elle a un équilibre de balance des paiements qui n'a pas de raison d'être fortement menacé à moyen terme. Donc on n'a pas à emprunter à l'extérieur. Et en termes de relance interne, effectivement, on fait une politique nous-mêmes de relance. Il y a la Banque Centrale Européenne, une politique extrêmement forte, plus forte qu'elle n'a jamais faite. Et il y a des politiques qui commencent à être coordonnées au niveau de l'Union Européenne, dont on peut espérer qu'elles suffisent pour faire une relance coordonnée.
Allez, on avance dans le débat et on a François au standard qui nous appelle d'Autran. Merci d'avoir patienté, François. Et vous voulez qu'on avance sur notre réflexion sur le monde d'après?
Oui, c'est ça. Merci de prendre ma question. Ben, voilà, en matière de relance, moi je m'étonne un peu parce qu'on entend de plus en plus dire que la crise qu'on subit et la pandémie qu'on subit aujourd'hui, elle est liée quand même beaucoup à notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de production, la mondialisation, etc. Et donc la question pour moi se poserait de savoir est-ce qu'il faut relancer les choses telles qu'elles étaient auparavant ou est-ce qu'on essaie de réfléchir à un mode de vie différent, une production différente. Et bon, il me semblerait que le bon sens aurait tendance à nous pousser à dire peut-être qu'il faut qu'on s'interroge quand même sur la façon dont on vit et la façon dont on produit, dont on échange. Mmh. Et donc si on dit qu'il faut essayer d'évoluer là-dessus, la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme nouveau modèle? Comment on peut le proposer? Et puis la question subsidiaire, c'est comment on fait pour calmer les appétits de ceux qui veulent que l'on produise plus et toujours plus.
Quel nouveau modèle on peut inventer? Et peut-être même, François, que peut-on déjà voir de ce qui serait possible? Il nous reste juste quelques minutes, alors je vais vous demander des réponses courtes, mais je voudrais vous entendre, Mathilde Lemoine, sur ce monde d'après.
Alors, je vais essayer d'être rapide.
Oui, mais c'est un défi, mais il faut le relever.
C'est un défi. Alors, plusieurs éléments, trois éléments rapides. Premièrement, attention, car il y a aussi, au-delà de la mondialisation, il y a aussi une question d'augmentation de la population mondiale et de densité de la population mondiale. Et ce que révèle cette crise sanitaire, c'est que on n'a pas suffisamment accompagné cet accroissement de la population mondiale, cet accroissement de la densité de la population mondiale. Et en Europe en particulier, on n'a pas accompagné le vieillissement de la population et on a toujours considéré que la question du vieillissement était une question économique. Or, ce qu'on remarque, c'est que c'est aussi une question sociale et que on ne peut pas faire de l'économie, on ne peut pas faire de la croissance, on ne peut pas développer des modèles économiques sans tenir compte de l'individu en termes, je dirais, de préservation de l'individu, tant santé que compétences. Et ça, j'espère en tout cas que la crise sanitaire va révéler cette importance. Et le troisième élément, c'était évidemment sur la mondialisation, un phénomène qu'on voyait avant l'arrivée de la crise sanitaire, c'était la régionalisation du monde. On voit que l'Asie a pris une place de plus en plus importante et donc la crise que l'on vit pourrait accélérer la régionalisation des chaînes de production asiatiques qui étaient à l'œuvre pour essayer de concurrencer les États-Unis et donc de partager le leadership mondial.
Le défi est relevé. Merci Mathilde Lemoine. Thomas Gomard, si vous voulez bien en une minute nous dire à François ce que vous pouvez entrevoir de ce qui pourrait changer.
Ben moi, je pense que la discussion sur le modèle de demain est essentielle, mais qu'il ne faut pas oublier que la politique internationale, avant d'être un débat d'idées, c'est un rapport de force. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi être très attentif aux redistributions de puissance auxquelles nous assistons. Si vous voulez, reprenons l'exemple de 89 et de la réunification allemande. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on tient à la réunification allemande? Eh bien, je dirais, en arrière-plan, se joue la question de la relance européenne ou celle de l'élargissement de l'OTAN. Et avec cet exemple, ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous sommes en train de traverser, c'est aussi une recomposition de la relation Chine-Europe-États-Unis et des effets que cette recomposition aura sur l'ensemble du système international.
Merci. Pierre-Cyril Auqueur, où est le débat pour vous?
Oui, je suis frappé par le fait que cette crise montre à la fois une certaine inefficacité des administrations publiques, mais aussi une extraordinaire inventivité de la société, où on voit des associations, des entreprises, indépendamment de leur mission centrale, se mettre à inventer des solutions pour résoudre des tas de problèmes, que ce soit la production de masques, l'organisation des soins, etc. Ceci suggère que la société d'après, c'est une société dans laquelle on est beaucoup plus éduqué qu'on était autrefois. On n'a plus besoin d'avoir un État vertical qui nous impose tout et qui règle tous les problèmes. On a besoin d'avoir une société inventive qui a la libre possibilité de développer un certain nombre de choses. La Convention des citoyens sur l'environnement montre bien qu'il y a des désirs de faire évoluer les choses et que passer par les citoyens est une bonne manière de faire. On a une demande pour les référendums d'initiative citoyenne et choses comme ça. Et il faut aussi qu'on pense à cette solidarité qui se manifeste localement. Il faut aussi la penser à l'échelle mondiale, parce que ce que montre une épidémie comme celle-ci, c'est que les solidarités, elles sont mondiales désormais. Si nous ne permettons pas au Sud de résoudre le problème de l'épidémie chez eux par de véritables aides, eh bien l'épidémie reviendra vers nous, et nous le savons dès maintenant. Notre propre intérêt, c'est d'être solidaire à l'échelle locale et internationale.
Pierre-Cyril Auqueur, Thomas Gomard et Mathilde Lemoine, je voudrais vous dire un très grand merci à tous les trois d'avoir été sur France Inter pour nos auditeurs ce samedi soir. Mais il est déjà 18h55 et comme tous les soirs à cette heure-ci, nous avons le plaisir de retrouver la compagnie d'un artiste. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Comment allez-vous ?
Je vous en prie, ça va bien, merci, c'est gentil. Et vous, ça va ?
Ben nous, ça va. Et vous savez que vous nous avez fait terriblement plaisir cette semaine avec votre concert live. Pas seulement parce que c'était de la très bonne musique, mais aussi parce qu'on a pu constater que vous viviez, en fait, comme nous, à un moment donné, il faut bien faire le dîner.
Ah oui, j'ai vu cette... En fait, oui, c'était très amusant, c'était très charmant, effectivement.
C'était charmant de voir votre épouse qui dit, ben non, ça y est, maintenant... Bon, j'espère que Mélanie Thierry va bien.
C'est comme c'était comme le bard de Astérix, là.
Qu'est-ce qu'il fait? Non, dites-moi pourquoi le bard de Astérix, il chante faux.
Bon, on lui demande de se taire, quoi. Dès qu'il chante, on lui demande de cesser, quoi.
Bon, ben j'espère que vous avez fermé la porte de la cuisine à clé cette fois-ci. Et parce que...
Je n'ai pas de porte.
Vous n'avez pas de porte, ça va être dur. Mais vous allez nous jouer quelque chose.
On prend les risques. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que vous voudriez nous faire partager ce soir?
Avec plaisir. Écoutez, j'ai une chanson de circonstance qui s'appelle Fièvre d'Asie. Je me propose de vous la jouer si ça vous va.
Mais ça sera avec un très grand plaisir. Fièvre d'Asie, Raphaël.
Alors j'y vais, hein. Je pose le téléphone et je prends ma guitare.
Faites comme chez vous.
Par la fenêtre ouverte, dans l'air du soir, les rideaux volants devant les astres, les fils de famille revenus des désastres. Et des fièvres d'Asie. Par la fenêtre ouverte, dans l'air du soir, la main d'une mère les fils de famille. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et nos fièvres d'Asie. Soigner leur tropicale maladie, leur insomnie.
Raphaël, merci d'avoir partagé cette chanson avec
merci
nous.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si on entendait quelque chose, mais moi, j'entendais bien.
On entendait tout. J'allais vous dire non, rien du tout, mais c'était une blague. On entendait tout. Merci encore. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres chez vous.
Prenez soin de vous. Portez-vous bien.
Portez-vous bien.